Bonsoir, province de l'Ituri, résurgence des massacres de la population civile dans les territoires de Djougou et Irumou après une accalmie observée depuis quelque temps. Depuis le week-end dernier à ce jour, plus de 60 civils ont été tués par les ADF et les groupes armés Zaïre et Codeco. Le porte-parole de l'armée en Ituri qualifie les auteurs de ces massacres des civils des lâches et demande aux miliciens du groupe Zaïre de déposer les armes et de s'inscrire dans le processus de paix, comme l'ont déjà fait d'autres groupes armés à l'instar de la CODECO et de FPIC. Du côté de la société civile, son coordonnateur demande aux autorités militaires de prendre au sérieux cette situation qui prend des allures identitaires. Le gouverneur de l'Ituri attribue ces violences dans le territoire de Djougou à Yves Pangamandro, chef de la chefferie de Bahema Baniwagi en cavale parmi les responsables du groupe armé Zaïre avec comme mission de faire capoter le processus de paix en cours. Comment analyser cette situation? C'est notre thème de ce soir. Participe au débat Pascal Kakoraki, député provincial de l'Ituri, élu d'Irumou et membre de l'Union sacrée de la Nation. Pascal Kakoraki, bonsoir.
Bonsoir Madame Kelly, je voudrais peut-être apporter une précision. Je suis élu sur la liste de regroupement AAB du parti RDPR.
Merci. Luc Malembe avec nous dans ce studio, cadre de l'ECID et porte-parole de l'AMUKA. En Ituri, Luc Malembe, bonsoir.
Bonsoir, Madame Kelly.
Et le professeur Casimir Ngoubi, politologue et expert dans les domaines des violences politiques et des groupes armés. Professeur Casimir Ngoubi, bonsoir.
Bonsoir, Madame Kelly Kouté. Bonsoir à tous les auditeurs de la radio Capi, la radio de la paix.
À Bounia, dans la province de l'Ituri, vous nous suivez sous la 104.9. Et si vous êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radioocapi.net ou encore sur Canal+, Channel 572. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radiookapi.net.
Province de l'Ituri, environ 20 personnes sont mortes à Kalandaou, dans la région de Berunda, limitrophe de la province du Haut-Touélé. C'est au cours des combats dimanche et lundi entre les assaillants de la CODECO et ceux de la milice Zaïre. Des sources de sécurité rapportent que les belligérants disent vouloir protéger leurs communautés respectives, ce qui a occasionné un mouvement important de la population. Martial Kizabiamungo pour le reportage.
Les dimanches derniers, les assaillants de la CODECO ont lancé des attaques contre les miliciens du groupe armé Zaïre à Kalandaou vers Boku. Motif invoqué, protéger la population appartenant à la communauté Lori qui serait réduite en esclave depuis plusieurs mois par des miliciens de Zaïre. Selon des sources de sécurité, les miliciens zaïrois majoritaires dans cette région ont répliqué à cette attaque. Plusieurs sources dans la région de Berunda affirment que ces combats se sont poursuivi jusqu'au lundi après-midi. D'après la même source, le bilan est d'environ 20 personnes abattues, parmi elles plusieurs miliciens du groupe armé Zaïre. Ce bilan n'est pas encore confirmé par des sources officielles. 4 armes du type AK-47 ont été récupérées par les assaillants de la CODECO. Ce mardi matin, c'est un calme précaire qui s'observe dans les villages de Kalandaou et Berunda, vidé de la population de la communauté Lori qui a fui vers Makofi à 10 km plus loin. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Dans une communication faite à la presse ce mardi à Bounia, le gouverneur de l'Ituri, le général Johnny Luboya Nkashama, attribue les violences dans les territoires de Djougou à Yves Pangamandro qui, selon lui, est parmi les responsables du groupe armé Zaïre qui veulent faire échouer le processus de paix en cours dans cette province. L'autorité provinciale dit disposer des éléments qui prouvent l'implication de ce chef dans un projet de déstabilisation de l'Ituri. On l'écoute au micro de Martial Kiza.
Comment
un groupe qui disait se protéger, aujourd'hui commence à aller vers d'autres communautés pour aller tuer, pour encore réveiller ces actes criminels qu'on était en train vraiment qui était en train de se tasser. C'est ça la grande question. Mais à cette question, nous avons une réponse parce que nous avons l'information. Il s'agit de Yves Kawamandro, chef des Baema Banyuag, qui a enfoui ce monsieur-là, chef qu'il est. Il réside à Tchomia. Un matin, il s'est réveillé pour dire que non, voilà, lui, il doit protéger sa communauté, ainsi de suite. Ce monsieur, non, ce monsieur a pris la clé des champs, Dieu seul sait, on dit qu'il est à Berunda, vers Berunda, mais je doute fort, il doit être dans les parages là-bas, où il est en train de recruter, où il est en train de mobiliser. Il appelle les autres communautés pour que, effectivement, des membres de certaines communautés ici, l'Hindou, je peux encore les citer, l'Hindou, Bira, pour qu'ils se joignent à lui. Pour des motifs qu'il connaît et que tout le monde connaît aujourd'hui. Parce qu'il parle de la balkanisation. C'est ça le grand problème.
Pascal Kakoraki, député provincial d'Elitouri, élu d'Irumu, résurgence des massacres de la population civile dans les territoires de Djougou et Irumu, alors qu'on a observé une accalmie depuis quelques temps dans ces deux territoires. Qu'est-ce qui expliquerait, selon vous, cette résurgence des tueries des populations civiles?
Très bien, merci madame pour la question. D'entrée de jeu, je voudrais commencer par saluer tous les auditeurs de la radio Kabi, mais aussi présenter mes condoléances à toute la population iturienne qui traverse les moments très difficiles, et surtout la population de Njoubou et d'Irumu meurtrie par les affres de la guerre. Madame, à la question de savoir qu'est-ce qui justifie à ce jour la persistance de ces conflits en territoire de Njoubou et d'Irumu, je voudrais ici répondre en disant ceci. Je pense que la calmie qui a été observée il y a quelques semaines devrait être capitalisée. La plus grande difficulté que nous avons, c'est que la situation sécuritaire, lorsque elle tend à s'améliorer, et l'on croit que la situation est devenue définitive. Il y a deux mois passés, les deux groupes armés, CODECO et ESPIC, avaient signé leurs actes d'engagement unilatéraux qu'ils ont déposés auprès du gouverneur des provinces. Mais jusque-là, nous ne savons pas qu'est-ce que l'État congolais, qu'est-ce que le gouvernement de la République a réservé à ces éléments des groupes armés. Le programme DDRC, tant vanté jusqu'aujourd'hui, on ne voit pas encore son effectivité sur le terrain. Mais aussi, il faut ici rappeler que les territoires d'Njougou et les territoires d'Irumu, figurent parmi les territoires qui disposent des minerais. Et que si vous voyez la situation géographique, les lieux où se situent les groupes armés et leurs états-majors ne sont pas loin des carrés miniers. Donc, il y a lieu d'affirmer ici que les groupes armés restent intacts. Le fait pour eux d'avoir signé les actes d'engagement unilatéraux et aussi le fait qu'ils continuent à contrôler les zones minières justifie la persistance des crimes qu'ils continuent à commettre sur nos populations.
Et vous pensez donc, Pascal Kakoraki, que c'est entre autres le fait de la non-prise en charge de ces groupes armés qui ont signé l'acte d'engagement unilatéral, leur non-prise en charge, qui les pousse à reprendre les armes?
Oui, en fait, madame, je l'ai dit parce que l'accalmie qui a été observée depuis deux mois, cette accalmie est justement du fait que les deux groupes armés avaient déposé leurs actes d'engagement unilatéraux et dès lors, ils étaient appelés à observer les CCDC. Mais il s'est suivi du fait de voir que ces éléments ne sont pas pris en charge. Et s'il y a eu des provocations ou s'il y a eu des attaques de part de notre groupe armé, et il va de soi que ces groupes puissent répondre. Donc nous pensons que le fait de ne pas prendre ces éléments qui ont déjà souscrit au processus de paix et aussi la question des contrôles des zones minières sont pour moi les deux raisons principales qui justifient cette recrudescence actuelle.
Lorsque le gouverneur des provinces cite certaines personnalités d'être derrière ces violences, ces massacres, qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, madame, je crois que le gouverneur de province, et surtout le gouverneur militaire, c'est l'autorité numéro un sécuritaire au niveau de la province. Donc, lorsque le gouverneur affirme que il y a une personnalité ici, comme vous l'avez dit, à la personne de chef Yves Kawa Pangamandro, être un des auteurs, je me dis, chef Kawa était ici depuis plusieurs années, pourquoi les services de sécurité n'avaient pas mis la main sur lui? Et c'est ça ce que nous disons souvent. Des discours tels que des personnalités, des discours tels que c'est X des tireurs de ficelles, pendant que nous disposons des services, nous disposons de l'armée, nous disposons de la police, des services de MIAP, de l'ANE, de DGM. Pourquoi ne pas mettre la main sur des personnes présumées être des instigatrices de tout ce qui se passe? Donc pour nous, il n'est pas question de nous donner des justifications sur ce qui tue nos populations. Mais nous avons plutôt, la population plutôt besoin de la paix, de la sécurité. Et ici, celui qui est appelé à nous donner de la paix ou de la sécurité, c'est bien évidemment l'État congolais représenté en province par le gouverneur militaire.
La société civile s'inquiète de la situation actuelle dans la province de l'Ituri, demande aux autorités de prendre au sérieux ce problème qui prend des allures identitaires. Est-ce que vous partagez le même point de vue?
Oui, je partage le point de vue de la société civile du fait que dès lors que au sein de la population, le groupe communautaire commence à s'attraquer, les uns accusent les autres d'être des bourreaux et que les autres accusent les uns d'être aussi des bourreaux. Donc, les groupes se considèrent victimes de part et d'autre et aussi de part et d'autre, les groupes se considèrent comme des bourreaux. Et dès lors, il se pose déjà un problème des tensions communautaires. Parce que dans la présentation, vous l'avez dit, que les groupes à qui on reproche l'attaque de Berunda dans la chefferie de Mabendi, c'est reproché au groupe Zaïre. Et de l'autre côté, on évoque la question de l'autodéfense. Il va de soi de dire que ces genres de crimes peuvent avoir des effets sur les relations sociales entre communautés.
Le gouverneur a parlé tout à l'heure dans l'interview que nous avons suivie. Il a parlé d'un projet de déstabilisation de l'Ituri.
Projet de déstabilisation, moi je crois que ce discours est trop vieux. C'est depuis très longtemps qu'on parle de la balkanisation. Je crois que la RDC partage les frontières avec les États voisins. La RDC s'est inscrite dans les conseils des nations. Qui sont ceux-là qui veulent déstabiliser la RDC? On attend quoi pour mettre la main sur eux? On attend pourquoi ne pas les arrêter et les déférer devant la justice pour qu'ils disent à la population congolaise le motif qui peut justifier les crimes qu'ils sont en train de commettre? Donc pour moi, ce discours ne s'explique pas parce que je pense que les crimes qui se commettent soit des crimes qui sont odieux, soit des crimes qui heurtent profondément la conscience humaine, et il va de soi que ceux qui les commettent puissent répondre. Alors si c'est une question de déstabilisation, qu'on arrête les auteurs de cette déstabilisation et qu'ils répondent de leurs actes.
Luc Malembe, vous êtes cadre de l'ECID et porte-parole de l'AMOKA dans la province de l'Ituri. Comment vous analysez cette résurgence des massacres des populations civiles dans les territoires de Djougou et Irumu?
Merci beaucoup, madame. Je commence par saluer vos nombreux auditeurs ainsi que les co-débatteurs. En fait, je suis peiné de noter que, malheureusement, nous sommes en train de rentrer à zéro tous les efforts qui avaient déjà été faits avant l'état de siège pour tenter de régler cette question de la sécurité en Ituri. Malheureusement, nous sommes en train de rentrer à la case de départ. Lorsque on a proclamé l'état de siège, madame, nous tous, on a appuyé. En commençant par moi, Luc. Je suis opposant, mais j'avais dit, en donnant tous les pouvoirs à l'armée, je rappelle des pouvoirs exorbitants. Si vous lisez les ordonnances proclamant l'état de siège, on a donné tous les pouvoirs au gouverneur militaire. Il n'y a pas d'assemblée pour le déranger. Il est seul. On lui a donné la justice, tout, militaire. Nous avons dit, en tout cas, on a appuyé si ça pouvait nous aider à endiguer finalement cette situation. Un mois s'est passé. Deux mois. Trois mois. Non? Moi, j'ai commencé à voir que tout, y a rien. Les massacres, d'ailleurs, ont commencé à s'amplifier plus qu'ils ne l'étaient déjà. J'ai commencé à dire non, mais c'est pas ça l'état de siège que nous on attendait.
Le gouverneur militaire qui vient de parler, demandez-lui depuis le week-end, depuis le samedi, vendredi d'ailleurs, que le premier massacre, carnage à Damas a commencé. 22 civils tués. Le même jour, les ADF ont tué sur la route nationale numéro 4 en territoire du Romo. 22 civils. Aujourd'hui, on nous parle de, vous venez de faire état de notre village où il y a eu encore 20 morts. Demandez-lui si le gouverneur militaire a été là aujourd'hui. Il n'y est pas. C'est ça
le problème. Il peut pas être partout au même moment.
Non, je peux vous dire que ça, c'est le, ce carnage que vous voyez aujourd'hui. C'est le 7e grand massacre. Grand massacre, je
mais
parle pas de
tueries isolées. Mais comment vous pouvez expliquer ces massacres, Luc Malembe? Pourtant, il y a quelques temps, la situation s'était quand même calmée. Il y a eu une accalmie.
Non, la situation ne s'était pas calmée, je vous explique. Il n'y a jamais eu d'accalmie. Moi, je suis pas d'accord avec ce langage-là. Plutôt, les groupes armés ont compris la logique de l'état de siège et les groupes armés ont induit, ont roulé l'état de siège avec cette histoire qu'ils ont appelée signature des actes d'engagement. Ce que nous on attendait pour régler la question de la sécurité en Ituri.
Donc vous voulez dire que les groupes armés n'ont pas été sincères?
Non, ils n'ont pas été sincères. Ils ont roulé les gens de l'état de siège parce que les groupes armés ont compris qu'ils ne sont pas venus pour terminer la situation. C'est ça la vérité. Pour régler la question de Djougou.
Vous avez échangé avec les groupes armés?
C'est pas ça. Je vous explique. C'est une analyse que je fais. Je n'étais même pas là. Moi, j'étais en prison. Quand ils ont fait leurs histoires, moi, j'étais en prison. Mais ce jour-là, moi, j'ai dit, les gens ici de l'état de siège viennent de commettre une grave erreur. Et nous y sommes. Ce que je craignais, justement, ça y est. Qu'est-ce qui se passe, madame? C'est que nous, on attendait pour régler la question sécuritaire en territoire de Djougou, par exemple. Il fallait d'abord une grande opération militaire d'envergure. Ce sont des civils qui sont armés là-bas. Nous n'avons pas une rébellion vraiment structurée avec des revendications. Tous ces gens n'ont aucune revendication, madame. Que ce soit Codeco, que ce soit Zaïre, ils n'ont aucune revendication acceptable. C'est un groupe de civils qui ont pris les armes avec des motivations communautaires ethniques. Alors, ce que nous on attendait, c'est quoi? C'est pas de dialoguer avec ces gens. On peut pas dialoguer avec Codeco. Pour dialoguer avec Odeco, ils n'ont même pas de revendications. Demandez-leur.
C'était quoi la solution?
Des opérations militaires d'envergure. Il fallait imposer l'autorité de l'État par la force. Forcer tous ces civils armés à comprendre que l'État est plus fort que tout le monde. Et les obliger à déposer les armes. Et lorsqu'ils déposent les armes, c'est là qu'on devait lancer le DDR. Et ça, c'est plus l'état de siège qui devait le faire. Nous, ce qu'on attendait, c'est qu'ils nous mènent des opérations d'envergure, madame. Ça n'a jamais eu lieu.
Mais il y a eu des sensibilisations avant.
Non, tout ça avait déjà été fait.
Si, Luc Malembe, il y a eu des sensibilisations. On a appelé tous les groupes armés à pouvoir déposer les armes avant que l'État ne puisse utiliser la force.
Voilà. Et les groupes armés avaient démontré qu'ils n'allaient pas comprendre ces messages-là. Ils ne comprenaient, ils n'attendaient que des opérations d'envergure pour avoir peur et le faire. Ça n'a jamais eu lieu, madame. Moi, d'ailleurs, je me demande à quoi aura servi cet état de siège. À quoi ça nous aura servi? Parce que si vous entendez le gouverneur militaire, il est en train de se plaindre. Oh, c'est chef Yves Kawa. Nous, on n'a pas besoin de tout ça, de nous dire des problèmes tous les jours, madame. Nous, on a besoin de solutions.
Vous pensez que la population n'a pas besoin de savoir qui sont derrière ces groupes armés, qui sont les tireurs des ficelles?
Que ça soit Kawa qui soit derrière. Que ça soit moi, Luc. Mais je viens de vous rappeler que le gouverneur militaire, comme il est là, on lui a donné tous les pouvoirs exorbitants. On lui a donné une justice militaire totalement à ses ordres. Qu'est-ce qu'il en fait? Kao a toujours été à Bounia. Combien de fois, lui, il a rencontré Kao? Demandez-lui. Combien de fois il a rencontré, il ne l'a jamais arrêté. Pourquoi il n'a pas arrêté Kao est venu nous dire aujourd'hui, non, c'est Kao qui ne savait pas que Kao avait menacé de prendre les armes avant même qu'on proclame l'état de siège.
Peut-être qu'il y avait des enquêtes en cours pour vraiment confirmer
il a
que
laissé Kawa
le chef Kawa est derrière
il a
le
laissé
groupe armé
Zaïre. S'enfuir. C'est quoi la vérité, madame? La vérité, c'est que c'était une erreur d'avoir mêlé les militaires dans la gestion politique et administrative des provinces. Je veux vous dire, madame, que on nous a dit ici, moi je suis arrivé ici à Kinshasa, je trouve ce genre de choses parce que l'administration militaire avait mis en place une campagne médiatique mensongère pour faire croire à l'opinion nationale ici que non, tout va bien, ils ont ouvert la route. Mais c'est faux, madame. La route nationale numéro 4, qui va de Beni à Kisangani en passant par l'Ituri. Cette route était praticable, ouverte à la circulation avant l'état de siège. Aujourd'hui, c'est une route de la mort. Elle est totalement abandonnée aux ADF. Les villages sont vidés.
Il n'y a pas
des
militaires.
Non, les villages sont vidés. Si vous prenez tout un tronçon de 180 km qui va de Komanda à Luna à la frontière entre l'Ituri et le Nord Kivu. Madame, c'est une chefferie. La chefferie de Walé, c'est Vokutu. Totalement vidée. Les chefs de chefferie à Fouille. Les villages, le bureau de la chefferie incendié. Il n'y a plus personne là-bas. Et le gouverneur Luboya n'a jamais mis ses pieds là-bas depuis qu'il est ici.
Professeur Casimir Ngoubi, vous êtes politologue et expert dans les domaines des violences politiques et des groupes armés. Votre lecture de la situation?
Merci beaucoup, madame. Je réciproque les salutations à mes co-débatteurs. Eu égard à tout ce résultat des morts, ce meurtre constitue un indicateur sérieux du déficit des FARDC pour remplir leur mission, indépendamment de leur propre volonté, parce qu'ils sont là pour traquer les rébellions et les rebelles. Il signifie aussi que le DDRCS n'a pas encore convaincu les miliciens de leur intégration dans la justice établie civile, en mettant à leur disposition le minimum de moyens dont ils ont besoin. Et je vous informe qu'il y a dans plusieurs provinces, déjà on a nommé les coordonnateurs provinciaux du DDRCS. Je pense que si nous pouvons leur poser des questions en ce moment, il n'y en a pas qui ont déjà eu les moyens nécessaires pour faciliter l'intégration des miliciens. J'ajoute encore que ce massacre, ces morts, ont comme motivation première l'économie que la politique. Donc il y a là la question de recherche de carrés miniers, de vol de vaches pour assurer leur autonomie alimentaire. Et c'est pourquoi ils plient de bêtes, profitant des faiblesses de ceux qui devaient assurer la protection des civils. Il y a aussi ce manque de motivation des FARDC, n'est-ce pas, qui influe négativement sur leur rendement. Au cours, ou du coup, les rébellions ou les rebelles en profitent et l'emportent sur les FARDC. Comment voulez-vous que les hommes affamés ne soient tous l'emporter sur contre les rébellions qui, tous les jours, sont en train de sortir avec des minerais, qui vendent soit sur le plan national, ils vendent aussi à l'étranger, ils sont suffisamment ravitaillés et sur le plan de l'armement et sur le plan de la nourriture et consorts. Et c'est quand ils constatent que leur stock a baissé, qu'ils procèdent par les massacres, ravir les biens de population, les vaches, les bêtes, ainsi de suite. Les FARDC préfèrent garder leur simple présence, n'est-ce pas, en ne se tenant que là où ils ont été cantonnés. Alors qu'ils ne peuvent pas se faire. Et le mode opératoire déjà la crise le confirme. C'est la nuit, c'est pendant la fête, ou pendant des moments de réjouissance que ces miliciens interviennent. Mais pourquoi ne pas aussi anticiper au niveau des militaires, protéger toutes les populations qui doivent continuer à vivre comme elles doivent continuer à vivre, parce que les populations ne se sentent pas en prison ni au cachot. Voilà donc, si je ne m'abuse, le groupe d'experts sur le Congo reconnaissait l'existence du groupe armé d'autodéfense dénommé Zaïre. Et à travers ce rapport, ce groupe Zaïre a contribué largement à insécuriser la province de l'Ituri. Ce qui pourrait invraisemblablement, n'est-ce pas, étonner les Congolais et les Congolais de l'Ituri, c'est qu'il existe certains notables qui refutent l'existence de cette milice, particulièrement l'EMA. Et pourquoi? Parce qu'on voit déjà ce que Luc venait de dire ici. C'est confirmer cette thèse-là, selon laquelle les groupes ou les groupes d'armées ou les miliciens en Ituri, comme d'ailleurs dans d'autres parties de la République, sont des groupes ethnicisés. Ce sont les ethnies qui sont derrière ce groupe. Pas toutes les ethnies, bien sûr. Ce sont les leaders de certaines ethnies, n'est-ce pas, qui se transforment en responsables de ces miliciens pour gagner de l'argent.
Alors, puisque les leaders de ces ethnies sont connus, professeur, pourquoi, selon vous, l'État ne met pas, la justice ne met pas la main sur eux?
C'est là que je parle maintenant de la complicité. Il existerait une complicité entre ces notables, entre ces miliciens et certaines autorités, qu'elles soient civiles ou militaires. Et ce qui est très grave,
c'est considéré comme une haute trahison et que les auteurs ne se trouveraient pas dans le bureau, ne se trouveraient pas en train de se déplacer et aller à l'étranger, mais que ces auteurs se retrouveraient en prison. Vous voyez comment ce groupe armé a réussi à imposer son existence en Ituri et à s'octroyer une véritable puissance sur le territoire qu'il contrôle. Or, le monopole du contrôle de l'État doit appartenir à l'État lui-même. Et quand l'État ne sait pas continuer, c'est qu'il y a un problème. Et je souligne une fois de plus, Mme Kelly, il y a complicité. Il y a complicité entre certaines autorités, pas toutes les autorités, civiles comme militaires, n'est-ce pas, qui comportent avec ces miliciens pour accepter que la situation demeure telle qu'elle et se faire de l'argent.
Alors, complicité entre ces groupes armés et certaines autorités, pour quel but, professeur, pour déstabiliser la province afin d'avoir le contrôle sur les minerais?
Le contrôle sur le minerai, se faire de l'argent, et ce que j'avais appelé se transformer en dénationalisé, parce que ce sont des personnes qui ont accepté de trahir les intérêts de leur propre pays au profit des acteurs étrangers, dont notamment les multinationales, notamment les pays voisins, et que sais-je encore, et les grandes puissances très loin. Pourquoi ces multinationales et ces États voisins, n'est-ce pas, marquent leur présence chez nous? C'est parce qu'ils ont un intérêt là-dessus, et c'est ce que j'appelle l'économie de guerre. Donc, ils cherchent de l'argent parce que nous sommes incapables de pouvoir mettre en bonne position les services de sécurité, les services de renseignement qui peuvent être suffisamment capables de pouvoir traiter. Mais malheureusement, excusez-moi, je me pose toujours la question par rapport à ce service-là. Il n'y a-t-il pas aussi de complicité? Il y a de complicité par rapport au service de renseignement. Madame Kelly, j'ai dit que c'est extrêmement grave. Nous allons demander qu'on nous cherche une tombe où on va mettre tous les Congolais dedans et puis on oublie les Congolais, on oublie les Congos. Comme ça, les amis qui cherchent à gagner notre pays, qu'ils viennent et qu'ils nous restent clairement. Parce que nous ne comprenons absolument rien.
Alors, on a observé une certaine accalmie dans cette province, même si Luc Malembe n'est pas d'accord avec moi, professeur Casimir Ngoubi. On a suivi le député Pascal Kakoraki qui dit qu'on n'a pas su capitaliser cela. Qu'est-ce qui devrait être fait pour capitaliser cette accalmie?
Mais il fallait renforcer les services de sécurité pendant ce temps et continuer jusqu'aux frontières parce que nous n'avons pas signé un contrat avec l'Ouganda ou encore avec le Rwanda pour leur laisser notre frontière et entrer et accepter que cette frontière soit poreuse jusqu'à quand, on ne sait pas. Il fallait continuer, il fallait consolider les services de renseignement, il fallait envoyer davantage de militaires au front et surtout traquer par rapport à l'information, traquer ces deux groupes armés qui continuent encore à faire la pluie et le beau temps et qui empêchent la RDC de décoller.
Selon nos sources, presque tous les militaires ont été envoyés à Rutshuru pour combattre les M23. Il y a déficit des hommes en uniforme dans la province de l'Ituri.
Oui, c'est la stratégie de multiplication des fronts pour affaiblir l'ennemi. Qu'il s'agisse du M23, qu'il s'agisse de ceux qui vont à Rutshuru. Quand vous allez à Rutshuru, vous regardez vers Rutshuru et derrière vous laissez un vide et ils en profitent encore. Et là, vous dites qu'il faut un grand nombre de militaires. Nous sommes très nombreux, je pense, on explique encore. Je ne sais pas comment on va demander les militaires qui sont en train de s'occuper de la sécurité à l'Ituri ou qui quittent l'Ituri pour aller au nord Kivu sécuriser Rutshuru. Moi, j'ai comme l'impression qu'il y a un problème de stratégie, qu'il y a un problème de fond par rapport à la confiance de ceux qui sont chargés de gérer cette question de guerre. Soyons tous Congolais. On n'a pas deux États. Ou quoi, on doit continuer à se comporter comme des petits enfants et courir vers l'argent. À quel moment un Américain ou un Français ou un Britannique va peut-être prendre l'argent contre les intérêts de sa nation? Il y a un problème d'éducation civique dans le chef de toutes ces autorités qui doivent faire un effort pour comprendre que le pays est extrêmement déstabilisé et il faudrait que nous tous nous prenions conscience, professeurs d'université, médias et tout le monde. On prend les anciens de l'université, on prend les anciens de l'école secondaire, mobilisation pour permettre, n'est-ce pas, de pouvoir traquer les rébellions.
Merci, professeur Casimir Ngoubi. On va prendre ces nombreux auditeurs qui nous appellent sur notre standard. On va se rendre à Mambasa, dans la province de l'Ituri, pour écouter cet auditeur. Ça sera pour vous, Pascal Kakoraki.
C'est César Nduo Kaloume, à partir de Mambasa, province de l'Ituri. Je suis vraiment désolé de la déclaration du gouverneur de l'Ituri, étant un militaire ils devraient passer juste au trac des rebelles et prendre à charge les groupes qui sont déjà prêts et acceptent le processus de désarmement. Chose grave, ces groupes sont abandonnés à ce triste sort. Il est temps que le gouvernement prenne à charge les groupes armés qui sont déjà prêts au processus de désarmement.
Pascal Kakoraki, cet auditeur aborde un peu dans le même sens que vous. Le gouvernement doit tout faire pour prendre en charge ces groupes armés qui sont déjà prêts au processus de désarmement.
Oui, merci madame. Je salue les compatriotes à partir de Mambasa. Je partage son point de vue. Sa déception est fondée. Parce que nous l'avons évoqué dans notre propos. Nous avons dit que le fait que les éléments des groupes armés qui ont déjà signé les actes d'engagement illatéraux, qui ont souscrit au processus de paix, le programme de DDRC devrait directement le prendre en charge pour qu'on les mette dans une situation de démobilisation et de désarmement. Ce qui n'est pas fait. Et nous ne cessons toujours de critiquer notre politique de sécurité en disant que c'est une politique qui est incohérente. On lance un programme, il n'y a pas de fonds, on demande aux groupes armés de s'engager, les groupes armés s'engagent, mais voilà que maintenant l'effectivité traîne les pas. Ce qui pousse les éléments des groupes armés à recourir à des voies illégales pour se nourrir. Pour se soigner et ainsi de suite.
Pascal Kakoraki, excusez-moi de vous interrompre. On a suivi Luc Malembe tout à l'heure qui pense que cet engagement des groupes armés n'était pas sincère.
Oui, Luc Malembe est libre de dire que cet engagement était sincère ou non. Mais moi, je crois que la sincérité, et tout comme le manque de sincérité, se présume. Nous pensons que le fait que ce sont les leaders communautaires qui avaient accompagné les dirigeants des groupes armés, nous présumons jusque-là leur bonne foi. Mais maintenant, du côté du gouvernement, les éléments des groupes armés ont déposé leur cahier de charges, ce qu'ils appellent acte d'engagement unilatéral. Mais de l'autre côté, qu'a fait le gouvernement? Le gouvernement a libéré les militaires pour aller renforcer le front au nord Kivu. Dans l'entretemps, les éléments des groupes armés font quoi? Ils attaquent, ils font quoi? Ils érigent des barrières, ils font quoi? Ils contrôlent les sites miniers. Et c'est ça le problème. C'est ce que nous disons, cette incohérence-là dans la politique sécuritaire. Soit le gouvernement congolais dialogue avec les groupes armés en les mettant ensemble avec lui autour d'une table, soit le gouvernement congolais défait les groupes armés et les désarme par la force.
Luc Malembe, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Kisangani, dans la province de la Tchopo.
Albert Kolembela Bokomba, de Kisangani, dans la province de la Tchopo. La situation sécuritaire de l'Ituri devient de plus en plus inquiétante et la solution militaire ne répond plus aux attaques de la population. À ce jour, un dialogue franc demeure une solution pour sauver les paisibles citoyens qui meurent de la sécurité et de faim. À mon avis, la société civile et l'armée doivent initier un dialogue pour résoudre cette situation. La meilleure solution demeure aussi la création d'emplois pour les jeunes qui sont dans le chômage, qui sont facilement influencés par les groupes armés pour chercher les moyens de vivre.
Alors, contrairement à vous, Luc Malembe, cet auditeur parle de dialogue. Il estime que la solution militaire ne répond plus aux attentes, a montré ses limites.
Bon, moi je pense que la solution militaire n'a même pas existé. Vous savez que l'état de siège n'a pas inquiété les groupes armés. L'état de siège n'a pas réduit la capacité de nuisance des groupes armés. On nous parle du DDRC, du programme qui n'aurait pas commencé. Mais madame, pour qu'on lance un programme DDRC, il y a deux possibilités. Soit on frappe terriblement les groupes armés et on les oblige à déposer les armes sans condition et là on leur présente le DDRC. Ou alors on signe un accord, on dialogue comme l'auditeur disait, on dialogue avec eux. Ni l'un ni l'autre n'a été fait, madame. Si vous-même vous lancez les DDR maintenant aujourd'hui, qui va y adhérer? Parce qu'il n'y a pas un accord signé avec les Codeco, avec Zahir, avec Tchini Akilima, même la FRPI qui avait signé un accord depuis 2020. Ils sont là, ils attendent. Et ils attendent qu'on exécute leur cahier des charges, notamment qu'on les intègre dans l'armée, qu'on les reconnaisse des grades, qu'on leur signe une loi d'amnistie. Des choses inacceptables, madame. Et ça, nous n'allons pas accepter qu'on nous dise aujourd'hui que les CODECO, avec tout ce qu'ils ont fait, qu'on va les intégrer dans notre armée. Ça, nous n'allons pas accepter. C'est inacceptable. Nous pensons plutôt que l'état des choses dans la manière dont il a été conçu, et nous l'avions dit dès le départ, c'était mal planifié. Il va falloir qu'on retire les militaires de la gestion politique et administrative. Ils sont éparpillés. Moi, je ne suis pas en train de dire que le gouverneur Luboya est mauvais. Non, il est éparpillé. Vous voyez, on lui a donné beaucoup de pouvoir, beaucoup de choses à faire. Il faut qu'on l'aide à rentrer dans ces histoires de l'armée. Et il faut qu'on arrête de nous faire croire que l'état de siège est la dernière solution pour la paix en Ituri. Mais non, non. Je vous rappelle qu'en 2013, quand l'armée a vaincu l'M23 à Goma, mais il n'y avait pas l'état de siège, il y avait un gouverneur civil, le gouverneur Julien Paluku, et l'armée, sous sa coordination, a gagné l'M23. Donc, il va falloir qu'on remette les militaires dans leurs casernes, qu'on remette l'administration civile, sous la coordination d'un gouverneur civil, qu'on donne tous les moyens alors à l'armée, et qu'elle lance d'abord des opérations d'envergure. Il faut frapper CODECO. Ces histoires que vous, je vous ai dit.
Il n'y a pas que CODECO comme
voilà, Zaïre, Tinia Kilima, tous. Il faut les frapper avec toute la force, les forcer à déposer les armes sans aucune condition, parce que nous ne sommes pas prêts à voir, à entendre parler d'une loi d'amnistie contre ces groupes armés avec tous les crimes qu'ils ont commis. Nous ne voulons pas entendre parler d'une intégration dans notre armée, des reconnaissances, c'est pas des généraux. Non, non, non. Cette histoire doit s'arrêter. Donc, voilà ce qui n'a pas été fait, c'est ce que nous on attendait de l'état de siège.
Professeur Casimir Ngoumbi, on va prendre cette dernière réaction pour vous qui nous vient de Bukavu Sud Kivu.
Moi, c'est Gabriel de Solange, depuis Bukavu au Sud Kivu. Je comprends que le gouvernement est impuissant face à ces massacres de civils perpétrés par les adieux finales et les groupes armés locaux. Car après ces massacres de civils, au lieu que les FARDC lancent une offensive militaire contre ces hors-la-loi, et ne font qu'un condamné seulement. Ceci constitue une impuissance de la part de notre gouvernement. Mais aussi, il me semble que depuis le janvier 2023 au Nagan, s'observe aussi une situation de relâchement des FRDC à l'encontre des ADF, ainsi que des groupes armés de la province du Tour. Pourtant, ces ennemis, à mon avis, ne sont pas à négliger, vu leur capacité d'intelligence observée sur le terrain.
Professeur Casimir.
Oui, moi je pense que le gouvernement n'est pas impuissant. Je voudrais plutôt dire que le gouvernement se sert de beaucoup de brebis galaises dans les rangs des FRDC, dans les rangs des services de sécurité. Et si toutes choses étant égales par ailleurs, la situation continue, je pense, comme je venais de le dire, nous c'est une grande tombe, on prend tous les Congolais, on nous met dedans, et puis tous ceux qui veulent avoir les chaises parce qu'ils sont intelligents, ils vont dire, nous allons disparaître. Parce qu'ils ne comprennent, non, ils ne comprennent pas le bien fondé de la protection des frontières nationales.
Quelle pourrait être la solution, professeur Casimir, pour sortir de cette situation?
Voilà. Moi, j'ai l'impression qu'il faut purger. On a toujours dit ça. Il faut purger les rangs des FARDC et débarrasser ces baby galeuses. Il faut identifier les personnalités auxquelles on donne de charges, de fonctions, que si ces personnalités-là ont véritablement la conscience nationale. Parce qu'on ramasse à gauche, à droite, n'importe qui, c'est un cousin, c'est un oncle. Quand vous visitez les cabinets, partout, pas seulement dans les cadres de province du Touri, c'est de l'ethnicisation fonctionnelle. Donc on a besoin des gens parce qu'ils sont proches, alors que les compétents qui peuvent vous aider sont là et on sont repoussés. Et donc j'ai l'impression que nous devons nous arrêter un peu et regarder un peu notre propre conscience en tant que Congolais pour bien défendre le pays. Sinon, ça n'aura pas de succès tout ce qui se passe à l'est de la RDC.
Alors, purger au sein de l'armée, professeur, mais les autorités de la province de l'Ituri pointent du doigt les politiciens, les leaders politiques qui seraient derrière ces mouvements, ces groupes armés, qui alimenteraient ces groupes armés.
Oui, c'est à ce niveau qu'il faudra renforcer les services de sécurité, identifier ces personnalités. La puissance de l'État ne s'arrête pas seulement à l'armée, la magistrature est là. L'État n'est pas incapable de pouvoir traquer tous ces gens-là. Voilà pourquoi, si ce travail ne se fait pas, j'ai l'impression que nous acceptons tous de mourir. Nous devons nous lever et nous rappeler de notre hymne national, le debout congolais. Hein. Voilà. Et surtout, à la fin, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. Et sincèrement, Kelly, est-ce que nous le faisons tous? De moi, l'enseignant, les prêtres à l'église, nous regardons tous ces commerçants à l'Est, ce que vraiment, nous travaillons pour assurer la grandeur d'un LDC ou non, que chacun réponde à la question.
Merci, professeur Casimir Ngoubi. On va considérer cela comme votre conclusion. Pascal Kakoraki, député provincial de l'Ituri, élu d'Irumu, qu'est-ce que vous proposez comme solution et quel message vous lancez à toute cette population de l'Ituri, à tous ces jeunes qui sont recrutés au sein de groupes armés, peut-être parce qu'on leur a promis de l'argent. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire?
Madame, nous demandons à tous nos frères et frères, à tous nos frères et sœurs ituriens de se désolidariser de tous les groupes armés, mais aussi nous demandons au gouvernement de la République de traquer les éléments des groupes armés et d'imposer la paix. Parce que le monopole de la violence revient à l'État. Il ne faut pas que l'État congolais puisse partager, et surtout si le gouvernement qui n'accepte pas de partager sa souveraineté avec les hors-la-loi. C'est une honte pour la République de voir en moins d'une semaine on tue des centaines de nos populations au vu et au su d'un gouvernement responsable.
Merci Pascal Kiakoraki, Luc Malembe, cadre de l'ECID et porte-parole de l'AMUKA dans la province de l'Ituri. Votre conclusion, vos propositions, parce que vous critiquez, vous n'êtes pas d'accord avec l'état des sièges.
Ouais,
Qu'est-ce que vous proposez comme solution?
Voilà, c'est que c'est d'ailleurs pour ça que je suis à Kinshasa. Je suis en train de sensibiliser tout le monde, la communauté nationale. Je suis dans les médias tous les jours pour que les gens demandent à M. Félix Tshisekedi de nous lever cette histoire d'état des sièges. Ça nous a pas aidé. D'ailleurs, le gouverneur qui est là, vous savez, l'Ituri, c'est une province à sensibilité tribale très très délicate.
Parlons des solutions, Luc.
Donc les solutions, c'est qu'il faut nous lever cet état de siège. Il faut laisser, ça fait 15 mois, 16 mois, que la population de l'Ituri est maintenue dans une terreur militaire devenue insupportable. Vous savez que l'état de siège, c'est une période exceptionnelle qui ne doit pas durer. Ça fait 16 mois. Or, la solution, c'est clair que ça, c'est pas l'état de siège qui va nous l'amener. Parce que vous-même, vous venez de voir, nous sommes à plus de 4000 morts depuis que l'état de siège est là, madame. Ça, ce sont des chiffres du baromètre sécurité du Kivu, c'est pas mes chiffres. Alors, combien de morts on va encore attendre? Non, il faut nous lever ça. Il faut permettre à l'administration militaire de rentrer. Parce que, à l'allure où vont les choses, écoutez, madame, il y a une méfiance déjà communautaire très très prononcée. Et les gouverneurs militaires ne saura pas gérer cette situation. Il faut nous lever ça, rentrer à l'administration civile et que l'armée se concentre uniquement aux opérations. On doit arrêter d'éparpiller les efforts de l'armée, demander à un gouverneur militaire de gérer l'administration, l'armée, la police, tout lui-même. C'est une mer à boire.
Merci Luc Malembe, Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à Dola Madimba qui l'a réalisé, Mimi Kindou était à la mise en onde. Présentation et coordination, Kelin Kouté, on se retrouve demain pour un nouveau numéro.